7h23. Depuis quelques jours, toutes sortes d'informations circulent. Parfois, ce sont des correctifs, des contradictions concernant le virus, concernant les traitements, concernant les vaccins, des découvertes. Prenons l'exemple d'hier, alors que l'Organisation mondiale de la santé a dû clarifier les propos tenus la veille, alors qu'on disait que finalement, c'était plutôt rare les cas de transmission du virus par des gens qui n'avaient pas de symptômes, des gens qui étaient asymptomatiques. Et là, ils ont dit hier, écoutez, c'est pas ça qu'on voulait dire, malentendu. On va essayer de clarifier ces questions scientifiques avec notre invité, le Dr Carl Weiss. Dr Weiss, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Alors, bon, l'OMS dit une journée, les gens qui n'ont pas de symptômes, il n'y a pas tellement de cas de transmission pour finalement corriger le tir. Pourriez-vous nous expliquer ce qui s'est passé peut-être et nous donner l'heure juste là-dessus?
Bon, alors là, il y a deux choses. Il y a la science. La science dit clairement, je pense, à l'état actuel, que la transmission asymptomatique existe. Donc, que les gens qui n'ont pas de symptômes peuvent transmettre le virus. D'ailleurs, ce n'est pas une surprise. Il y a beaucoup d'autres virus. Je prends l'exemple de la varicelle. Vous savez, la picote, là, on va dire. Ben, là, c'est la même chose, OK? Donc, c'est pas inhabituel pour un virus de pouvoir se transmettre alors que les gens n'ont pas de symptômes. La deuxième chose, c'est que des fois, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup de symptômes, donc ils se sentent pas très malades, et ils peuvent pratiquement se considérer comme des asymptomatiques, et ces gens-là aussi peuvent bien sûr transmettre le virus. Donc, on sait que l'aspect asymptomatique, et il y a plusieurs études qui démontrent que même une bonne proportion des nouveaux cas ont été générés parfois dans certains endroits du monde par ces personnes asymptomatiques. Alors ça, c'est pour la science. Pour le reste, ben encore une fois, l'OMS, vous savez, l'OMS, je vous ai déjà dit, c'était une organisation qui, à mon sens, est une organisation plutôt politique, très teintée de toutes sortes de courants politiques et de pressions. Et donc, c'est pour ça que l'OMS, vous avez vu le temps qu'ils ont mis à déclarer une pandémie, alors que tout le monde savait que c'était une pandémie. Et donc, ils étaient sous la pression politique de toutes sortes de pays ou d'organisations. Donc, faut pas trop se fier à ce que l'OMS dit. C'est pas la première fois qu'ils se trompent et c'est certainement pas la dernière fois qu'ils se trompent. Moi, je dis toujours aux gens, vous savez, si demain l'OMS disparaissait, est-ce que ça allait faire une différence dans notre vie de tous les jours au Québec en termes de notre santé des Québécois? La réponse, c'est probablement zéro impact. Donc, faut pas, je pense, suivre les recommandations de l'OMS. D'ailleurs, c'est très rare en médecine qu'on suive les recommandations de l'OMS sur différents sujets. En général, on a nos propres lignes directrices ou organismes scientifiques, qu'ils soient nord-américains, canadiens ou au Québec, et c'est là que nos recommandations viennent.
Bon, la question que les gens vont se poser, est-ce que quelqu'un qui a des symptômes par rapport à quelqu'un qui n'en a pas est plus, a tendance à... En fait, le risque de contaminer quelqu'un d'autre est plus élevé.
C'est probablement vrai que ce qu'on appelle la charge virale, c'est-à-dire que plus vous avez du virus en vous, plus la probabilité évidemment de contaminer quelqu'un d'autre est élevée. Donc il est fort possible que par exemple, quelqu'un qui est très malade, très symptomatique, va transmettre plus le virus aux gens qui l'entourent. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle, ça en anglais des super spreaders, c'est-à-dire il y a des gens qui ont cette capacité-là d'infecter beaucoup plus de monde. Ce que je veux dire par là, c'est que vous savez, on a parlé de ce qu'on appelle le R0. Combien de cas secondaires sont dus à un cas initial? Donc, par exemple, si j'ai un R0 de 2, ça veut dire que chaque personne infectée génère 2 nouveaux cas. Alors, mais on sait que dans toutes ces maladies-là, toutes les maladies virales, il y a toujours des gens, peut-être que dans certains cas, il y en a un qui va générer 14 nouveaux cas. Donc, ces gens-là ont tendance à être, si vous voulez, des bombes de virus qui transmettent beaucoup autour d'eux. Et c'est probablement ces gens-là qui représentent une certaine disproportion du nombre des nouveaux cas. Alors, c'est peut-être 5% des gens infectés qui vont générer 30 ou 35% des nouveaux cas, si vous voulez.
Bon, l'autre dossier, c'est celui de l'immunité. Hier, on apprenait qu'il y a une étude qui tend à démontrer que l'immunité, arrive assez rapidement, mais en même temps, l'efficacité diminue aussi rapidement. 6 semaines, dit-on, après l'infection, les anticorps sont moins efficaces pour neutraliser le virus. Qu'est-ce que ça veut dire clairement?
OK. Alors, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a encore beaucoup d'études actuellement qui sont en cours sur ce sujet-là, et donc la réponse finale et absolue n'existe pas encore. ce qu'on sait, c'est que les gens sont capables de produire des anticorps neutralisants. C'est-à-dire, c'est normal, les gens qui ont été très malades et qui ont guéri, c'est parce que leur système immunitaire leur a permis, sans médicaments, hein, on n'a pas de médicaments actuellement, de passer au travers et donc de guérir. Donc oui, on produit des anticorps neutralisants. Quelle va être la durée de ces anticorps neutralisants? On ne le sait pas encore, mais probablement beaucoup plus que 6 semaines. Si on fait une analogie avec le SRAS, donc le SRAS numéro 1, si vous voulez, en 2003, on sait que les gens avaient encore des anticorps 2 à 3 ans même après l'infection. Donc, probablement que la durée va être de protection risque d'être plus longue. Maintenant, ça risque pas d'être une durée non plus éternelle. Par contre, ce qui arrive, c'est que chaque fois que les gens qui ont été, et ça va être vraiment au niveau d'une deuxième ou d'une troisième vague, chaque fois que les gens qui ont été infectés dans le passé et qui ont guéri vont entrer en contact avec des nouveaux cas, est-ce que ça va booster, ça va donner un boost à votre système immunitaire? Et à ce moment-là, ça va être comme une espèce de rappel de vaccin, si vous voulez. Et à ce moment-là, les gens vont être reprotégés encore. Donc, il y a encore des questions. Ce que tout ça soulève actuellement, c'est qu'au Québec, on est encore une fois en retard sur tout l'aspect de la sérologie, c'est-à-dire de faire des études de séroprévalence. Il y a des choses qui se font, mais ça se fait à un pas de tortue lorsqu'on se compare à d'autres juridictions sur la planète. Et là encore, il va falloir que les choses avancent beaucoup plus rapidement avec beaucoup moins de structures administratives pour qu'on puisse justement faire des études de séroprévalence. C'est-à-dire, si on teste 500 000 Québécois rapidement, quelle est la proportion de ces Québécois qui ont des anticorps? Est-ce qu'on va les retester dans 6 mois? Combien vont encore être positifs? Est-ce qu'on va tester les travailleurs de la santé? Est-ce qu'on va tester les professeurs d'école? Est-ce qu'on va tester les policiers, les ambulanciers? Vous voyez, donc, c'est quelque chose qui va devoir être très disponible parce que ça va être un outil épidémiologique supplémentaire qui va nous donner des réponses.
Mais ce que vous nous dites, c'est qu'actuellement, la cadence n'est pas là et la cadence est essentielle pour avoir entre les mains les données pertinentes, là.
Tout à fait. On est très en retard, on est pris dans des carcans administratifs, et encore une fois, et la façon dont ça fonctionne, là, c'est lent et compliqué.
Bon. Autre dossier, celui de la chloroquine, là, le traitement de hydroxychloroquine. On a eu toutes sortes d'informations. Il faut distinguer ce qui est pertinent, ce qui ne l'est pas. À un moment donné, il y a eu cette étude publiée par The Lancet en disant que c'était pas très efficace, puis même il y avait un potentiel de danger sur le plan cardiaque. Finalement, les chercheurs ont dit, bon, on n'a pas pu valider toute l'information. Il arrive quoi avec ce traitement-là? Est-ce qu'il est utile? Si oui, dans quelles circonstances? Est-ce qu'il est dangereux? Est-ce qu'il faut encore faire des recherches pour en savoir plus long?
Alors, je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Oui. A, il faut continuer de faire des recherches pour en savoir plus long. Mais B, il faut savoir que l'hydroxychloroquine n'est pas un médicament qui a été fait et fabriqué, si vous voulez, avec la COVID en tête. Donc, c'est quelque chose qu'on avait dans notre tiroir, que quelqu'un a ressorti en disant, tiens, j'ai une clé, je vais essayer de voir si je suis capable d'ouvrir la porte. Mais ce n'est pas la clé qui avait été fabriquée pour la serrure en particulier. C'est le problème qu'il y a eu avec tout ça, c'est qu'on a vu que de la politique, des considérations, on va dire, philosophiques, des considérations économiques, ont fait qu'il y a eu des gens qui ont publié des études. Et malheureusement, on vit aussi à une époque, surtout dans la COVID-19, où il y a des gens qui veulent faire leur nom, qui veulent publier tout et n'importe quoi. Et on assiste à une certaine publication, une surenchère de la publication. Et même des journaux sérieux sont tombés dans le panneau en publiant des choses qui n'ont pas été vraiment vérifiées. Et c'est dommage, ça enlève, si vous voulez, de la crédibilité un petit peu au système. Donc il va falloir faire attention à cela. Ceci étant dit, la chloroquine n'est certainement pas une panacée, mais il faut savoir que la chloroquine, lorsqu'on nous a dit qu'elle a fonctionné, donc l'étude principalement qui avait été débutée par Didier Raoult en France, c'était associé à un autre médicament qui s'appelle l'azithromycine, qui est un antibiotique dont on sait que cet antibiotique a des propriétés inflammatoires. Donc c'est la combinaison des deux. Alors, en quoi l'hydroxychloroquine pourrait avoir des effets? Probablement, lorsqu'on le donne avec de l'azithromycine, donc les deux ensemble, probablement quand on le donne très précocement, c'est-à-dire au début des symptômes, et probablement si on a des gens pas très malades. Donc, si on est dans ce contexte-là, peut-être qu'il y a un effet qu'il faudrait étudier de façon, je dirais, plus sérieuse et répéter les études dans d'autres endroits du monde pour prouver ou infirmer, peut-être c'est faux aussi, ce qui avait été avancé par l'équipe de Didier Raoult initialement.
Alors, ça veut dire que les prétentions du président américain Trump de dire « je prends ça régulièrement de façon préventive », là, c'est complètement fou, là.
l'étape actuelle, c'est certainement pas quelque chose que moi je ferais. Là, j'irai pas me mettre sous prophylaxie à l'hydroxychloroquine. Et croyez-moi, j'étais dans l'hôpital où on a été confronté à la première vague de COVID-19 au Québec le plus. On a eu les premiers patients et j'en ai vu au moins 150 ou 200. Et donc, pratico-pratique, beaucoup de mes collègues m'ont dit, ou tous les professionnels de la santé, est-ce qu'on devrait en prendre en prophylaxie? Et même sans donner, les gens se sont dit, on se mettra pas à l'hydroxychloroquine dans l'état actuel des choses, même si on est capable de surveiller les effets secondaires, même si les gens sont en santé, même si les gens n'ont pas de problème cardiaque, etc. Donc, allez, moi, ce que je dirais aux gens, c'est s'il vous plaît, n'allez pas vous acheter d'hydroxychloroquine sur l'Internet et commencer à prendre ça en vous disant, je vais me protéger de la COVID. Là.
Et les patients que vous avez vus, est-ce qu'ils en ont reçu?
Alors, nous, on en a donné beaucoup initialement à l'hôpital général juif parce qu'on n'avait rien du tout, mais on l'a toujours donné avec l'azithromycine, toujours. On n'a jamais donné d'hydroxychloroquine tout seul. Là, on est en train d'évaluer, on a des étudiants en médecine puis qui sont en train de faire des collectes de données puis d'évaluer, je vous dirais, toute l'histoire des patients qui l'ont reçu. Évidemment, on n'a pas de groupe contrôle, c'est-à-dire on n'a pas fait ça dans une étude, encore une fois, qu'on appelle randomisée. Mais là encore, il faut faire attention à vos études qu'on appelle randomisée parce que ça a été aussi une création jusqu'à un certain point de l'industrie pharmaceutique, cet aspect-là statistique pour démontrer parfois des effets mineurs d'un médicament sur un autre. Alors oui, il faut faire des études randomisées prospectivement, c'est-à-dire dans le futur, mais à l'époque où les choses sont arrivées, on n'avait rien d'autre et les gens mouraient. Donc c'était difficile de dire, il y a peut-être un effet de quelque chose et on ne vous le donnera pas.
Parfait, merci beaucoup, Dr. Weiss. Bonne journée.
Vous aussi,
au revoir. Dr. Carl Weiss, microbiologiste, spécialiste des maladies infectieuses à l'hôpital général juif. 7h35.